I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech, l'émission où on résume toute l'actualité tech, internet et gadgets. Enfin ça c'est en général parce qu'aujourd'hui on a un épisode spécial où on va parler spécifiquement de Bitcoin, de blockchain, de NFT, de toutes ces technologies de crypto-monnaies dont on parle depuis des années. Et on a parlé spécifiquement de tout ça dans divers épisodes, mais là je pense qu'il est temps de faire un point et de vous proposer un résumé de l'état des lieux de toutes ces technologies qui sont en train de changer beaucoup de choses. Donc je suis très heureux de vous recevoir pour cet épisode spécial où on ne va parler que de ça. Et au sortir de l'épisode, je vous garantis que vous comprendrez tout, ou presque. Enfin, vous comprendrez plus que vous ne comprenez aujourd'hui avant l'épisode. C'est le but. Je suis Patrick Béja et ce rire malicieux que vous entendez derrière moi, c'est celui de Owen Simonin, alias Asher. Comment ça va, Owen ?
Bonjour Patrick, comment ça va ? Très très bien pour moi en tout cas.
Moi, je suis heureux de recevoir deux formidables spécialistes du sujet. D'une part, Owen, qui est de ce côté. Et de l'autre côté, on a Fabrice Croiseau qui nous rejoint. Je crois que c'est la deuxième fois que tu es dans le Rendez-vous Tech. Fabrice, merci de nous rejoindre. Comment vas-tu ?
Ça va bien, merci Patrick, merci pour cette invitation. Effectivement, c'est la deuxième fois que j'ai la chance d'être présent au Rendez-vous Tech. La dernière fois, c'était pour parler un tout petit peu de Libra. Donc, on n'était pas très loin du sujet. Même si on est moins dans le hype avec Libra en ce moment.
C'est sûr que ça a un petit peu dégonflé, mais c'est moi qui ai l'honneur et la chance de te recevoir une deuxième fois, Fabrice. Justement, pour ceux qui ne vous connaissent pas, avant de se lancer dans le vif du sujet, est-ce que vous pourriez nous dire qui vous êtes en quelques mots pour que les auditeurs aient un petit peu de contexte ? Commençons par Power Asher, justement.
Alors, je m'appelle Owen Simonin, je suis un jeune entrepreneur de 23 ans. Et je réalise depuis un peu plus de 4 ans des vidéos sur la blockchain et sur les crypto-monnaies depuis presque 5 ans aujourd'hui.
Merci de ta participation. Je dois dire que quand j'ai commencé à parler de ces sujets, beaucoup de gens m'ont pointé vers toi, vers ta chaîne YouTube. Donc, je suis content de pouvoir faire cette émission avec toi. L'autre chose qui me vient à l'esprit quand tu dis que tu as 23 ans, c'est que quand j'ai lancé l'émission en 2009, tu avais donc... quoi, 11 ans, 12 ans ?
Pas beaucoup, là comme ça, vol d'oiseau, 12 ans, ouais, c'est ça.
Je ne sais pas si c'est une bonne ou une mauvaise chose, on va dire que c'est une bonne chose que je sois encore là.
C'est ce que nous dit le darwinisme, en tout cas.
Oui, merci, on va le voir de cette manière. Merci beaucoup, c'est la bonne vision des choses. Fabrice, dis-nous qui tu es pour les auditeurs ?
Alors moi je suis Fabrice Croiseau, je suis aussi un entrepreneur aussi jeune, tellement jeune que je commence à embaucher des gens qui n'étaient pas nés quand j'ai commencé à travailler. J'ai 52 ans, je suis enthousiaste par le digital, la technologie et aussi les crypto-monnaies, les blockchain, et impliqué en tant qu'investisseur ou que faiseur, on va dire, sur pas mal de projets qui utilisent cette techno, entre autres.
On ne va pas faire de remarques sur le fait que digital se dit numérique en français depuis quelques semaines. Et on va enchaîner sur...
Je voulais dire que je suis passionné par tout ce qui touche les doigts.
Exactement, tout à fait, je te comprends. C'est très utile les doigts, ça permet beaucoup de choses. une autre technologie synthétique et pas naturelle, biologique, qui permet beaucoup de choses, c'est donc le Bitcoin... la blockchain. On a fait un épisode sur la blockchain, c'était le 183, il y a bien longtemps, et on avait expliqué en détail la blockchain. On a aussi parlé du Bitcoin il y a bien longtemps aussi, à de nombreuses reprises, et il y a bien longtemps et plus récemment, et des crypto-monnaies en général, et des NFT. Je vous propose qu'on commence par votre avis sur les NFT. Alors, j'ai expliqué à plusieurs reprises dans l'émission de quoi il s'agit, donc je vais expliquer très très succinctement ce que sont les NFT pour les auditeurs qui débarquent. ce sont en fait des utilisations de la blockchain qui permettent d'attribuer, en gros, c'est comme ça qu'ils sont utilisés aujourd'hui, d'attribuer la propriété d'un objet numérique, généralement, c'est pas forcément limité au numérique, mais c'est à ça que ça sert le plus, d'attribuer la propriété d'un objet numérique à une personne de manière fiable et sécurisée, de telle sorte que de nombreux... Alors, il y a plein d'utilisations. Hein, on parle, par exemple, de sortes de cartes à collectionner de moments vidéo de la NBA avec NBA Top Shots qui se vendent très, très bien. C'est vraiment comme des cartes à collectionner, sauf qu'elles sont numériques. Et vous... posséder, entre guillemets, des moments plus ou moins rares, mémorables de matchs de la NBA. Et il y a un site qui est dédié à ça et qui se vend très très bien, enfin qui fonctionne très très bien, mais on peut aussi les utiliser, on l'a vu ces dernières semaines, pour des œuvres digitales, enfin des œuvres numériques, hein, n'est-ce pas, c'est tout à fait numérique que j'ai dit, des œuvres numériques d'artistes qui vendent ces œuvres. Alors ça laisse les gens un petit peu perplexes et on a beaucoup parlé de la question de l'art, de ce qu'est l'art et de ce qu'est la propriété dans les épisode précédent, mais c'est vrai que quand on achète, par exemple, un collage numérique d'un artiste comme Beeple, qu'est-ce qu'on achète ? On achète un JPEG, une simple image qui est de toute façon reproductible sans aucune détérioration à l'infini. On achète, en fait, l'impression, c'est qu'on achète le savoir qu'on est, entre guillemets, propriétaire. C'est une sorte d'autographe, presque d'autographe sur une œuvre qui, de toute façon, peut exister partout. Alors, c'est le principe des NFT, c'est l'inscription dans une blockchain de la propriété d'un objet. C'est le principe technique. Vous, qu'est-ce que vous pensez ? Je sais qu'Owen, tu as fait une vidéo sur le sujet récemment. Qu'est-ce que tu penses de ces NFT ? Est-ce que tu penses que c'est une mode ? Est-ce que tu penses que ça a un avenir ? Et surtout, quelles utilisations est-ce que tu vois se développer pour ce type de technologie ?
Alors, je pense que c'est une mode, oui. Je pense que ça a un avenir quand même. Comme beaucoup de choses qui sont lancées par une mode à un moment ou à un autre. Et je pense aussi que ça va être utilisé à l'avenir. Donc ça fait quand même pas mal de choses. Déjà, je pense que c'est une mode parce qu'en réalité, les NFT existent depuis longtemps. Bah, aussi longtemps que la blockchain, en fait, puisqu'il y en avait déjà sur la blockchain Bitcoin. C'est ce qu'on appelait à l'époque les coins colorés. Encore une fois, on était vers 2010-2011, donc moi, je n'étais pas trop là pour le constater. par contre, je pense que là, comme ça devient plus facile à utiliser, ça devient connu aujourd'hui. C'est vrai qu'on pourrait se demander pourquoi. La tendance arrive maintenant et je pense que c'est parce qu'il y a beaucoup plus d'infrastructures. Aujourd'hui, on peut facilement en acheter. Les crypto-monnaies sont plus connues et plus abordables. On peut facilement en échanger. Il y a des plateformes pour. Alors qu'avant, quand on voulait acheter quelque chose, il fallait trouver la personne qui voulait vendre cette même chose dans les mêmes proportions. Enfin, c'est un petit peu plus accessible aujourd'hui. Après, du coup, ce qu'il faut comprendre, c'est que la valeur numérique... et non digital, la valeur numérique existait déjà. On a tous déjà payé pour avoir un avantage, un bonus dans un jeu, une vie en plus sur un Candy Crush ou tout simplement l'accès à un logiciel pour retoucher une photo, une image, un texte, bref.
Bah, c'est vrai que quand, en particulier sur des logiciels, on pense à Photoshop ou je sais pas, Office ou ce genre de choses. En fait, on paye pour y avoir accès. Bon, là, c'est encore pire parce qu'on n'en a pas la propriété. C'est ça qui change vraiment. On n'a pas la propriété de ces logiciels. On loue généralement une licence et la valeur numérique existait, c'est vrai. Mais là, c'est la propriété qui devient inscrite dans la blockchain. Je t'ai interrompu, pardon.
Non, c'est ça, c'est ça. Mais en fait, avant, on avait du coup cette valeur parce qu'il y avait une utilité, mais il n'y avait pas de rareté. Quand on a Photoshop, on sait très bien que les créateurs peuvent CTRL-C, CTRL-V, copier-coller et le vendre à des milliers de personnes, ce logiciel. Alors que grâce à la blockchain, maintenant, on peut, bien que le support soit numérique, être certain de la rareté d'un objet. Être certain qu'il n'y en a que 5 en circulation, que celui qu'on a est authentique et que c'est bien le numéro 3, par exemple. Ouais. Et donc, on peut briser un petit peu cette barrière entre la réalité et le monde numérique, où tout était jusqu'à présent duplicable, je pense que c'est le bon mot. Là, on peut avoir du coup une valeur qui est numérique et qui est rare. Et donc, ça ouvre une infinité de possibilités, notamment ces fameux NFT, qui pour moi se rangent vraiment dans deux grandes classes. Le NFT qui est utile, je dis un truc très simple, dans un jeu, on peut gagner un NFT et il n'y en aura que 10. Eh bien, les 10 qui ont gagné ce NFT peuvent rencontrer l'équipe fondatrice du jeu. Il a une utilité, c'est ça, c'est de là d'où vient sa valeur. Et du coup, la deuxième grande classe, dont, dont vous avez déjà parlé, qui est du coup le côté très artistique, le côté très détention de quelque chose dont je me dois moi-même d'évaluer la valeur, un peu comme les œuvres de Beeple. Et c'est vrai que du coup, rien que ces deux catégories-là, ça ouvre beaucoup de possibilités. Mais celle qui me fascine le plus, c'est le fait que c'est un tunnel parfait entre le monde qui n'utilisait pas la blockchain et ceux qui l'utilisent, les cryptophiles, qui très clairement, il y a des artistes, il y a un moyen maintenant, grâce aux NFT, on va dire, d'importer cette culture et de laisser une trace à jamais, une trace qui, elle, est numérique et qui est un support qui est assez nouveau pour la plupart des artistes, en tout cas.
Ouais. Et c'est vrai que quand tu dis la rareté, c'est effectivement le point central de toute cette discussion. On crée de la rareté là où peut-être il n'y en avait pas avant. Et c'est vrai qu'il y a des analogues dans le monde réel. On parle souvent de la question des diamants, qui en réalité sont pas si rares, dont la rareté est artificiellement maintenue par De Beers notamment, et sans doute d'autres, mais essentiellement eux. Et d'ailleurs, on a aussi la possibilité de créer des diamants artificiels qui sont en tout point identiques aux diamants naturels, mais qui n'ont pas la même valeur aux yeux des gens parce que les gens attribuent émotionnellement et même intellectuellement une valeur différente qui est tout aussi artificielle que le fait de se dire « ben moi, j'ai tel morceau de telle œuvre qui n'appartient qu'à moi », même si c'est un petit peu, en grande partie dans la tête, quoi. Si on parle des utilisations, Fabrice, est-ce que tu as d'autres idées? On parlait de jeux vidéo ou de ce genre de choses. Je ne sais pas si tu peux ouvrir sur des utilisations futures que tu peux imaginer.
En fait, ce qui est intéressant, c'est quand on fait le lien avec le monde physique, c'est en fait c'est pour tout ce qui est titre de propriété non falsifiable du tout. Donc ça, on avait déjà, pas forcément sous forme de NFT d'ailleurs, la preuve de diplôme, d'obtention des diplômes par exemple, c'est les tout premiers use cases sur la blockchain qui pouvaient garantir complètement le fait que j'étais bien détenteur du diplôme de telle ou telle école. Et donc c'est le lien aussi, aujourd'hui on parle de NFT qui sont purement numériques, mais on a la possibilité, si on arrive en fait à faire un lien vraiment qu'on sait être certains entre un NFT et quelque chose de physique, et ça, il y a plusieurs façons de le faire, et quelque chose de physique, eh bien, on arrive en fait, à avoir la preuve numérique que je suis bien détenteur d'un bien physique en particulier. Et ce que je trouve aussi super intéressant, c'est que ça nous re-questionne sur notre relation aux objets physiques. Pourquoi ? Parce qu'on trouve aujourd'hui, quand on dit à quelqu'un, tiens, tel NFT qui est finalement un morceau de données a été vendu plusieurs millions de dollars, beaucoup de personnes trouvent ça absurde. Alors que pourquoi celui-ci, pas un autre, alors que c'est une donnée, je pourrais avoir exactement la même donnée. En réalité, si j'avais une copie du tableau de la Joconde que personne, sauf vraiment une ou deux personnes dans le monde, sont capables de distinguer de l'original et que je l'avais dans mon salon, tous ceux qui viendraient, en fait, ils ne sauraient pas, ils verraient une Joconde, rien d'autre. Pourtant, ça ne vaudrait rien, parce que ce n'est pas la vraie Joconde. Et la raison pour laquelle ça ne vaudrait rien, c'est parce qu'on décide tous que ça ne vaut rien, parce que ce n'est pas l'original. Mmh. Et bien, oui, en fait, c'est exactement la même chose dans le monde réel.
Tout à fait, ouais. C'est très intéressant, toutes ces questions qui sont soulevées par cette technologie, finalement. Il y a une question très technique qui me vient, en fait, et c'est l'essentiel des sujets que je vais vouloir traiter. Comprendre techniquement toutes ces choses-là, que ce soit les NFT ou le reste, la blockchain est une technologie connue qui peut être implémentée par différents développeurs, différentes sociétés. N'importe qui peut créer une blockchain sur laquelle il ou elle va inscrire des NFT. En l'occurrence, quand on parle des NFT de Beeple ou de... vous me confirmez que n'importe qui peut avoir une blockchain, n'importe qui, si on a les connaissances techniques, peut créer une blockchain. Donc, une place de marché, je ne sais pas, Christie's qui a vendu l'œuvre de Beeple, par exemple, qui a utilisé... J'ai honte de moi, c'est une société dans laquelle a investi notre ami Jeff et il nous en parlait il y a quelques semaines au moment où on parlait de ce sujet. Mais ils ont utilisé telle société, Creator, quelque chose, Maker, quelque chose. On a donc cette société qui a créé cette blockchain pour vendre et acheter des œuvres spécifiquement, mais n'importe qui pourrait créer une blockchain pour ce but ou un autre. On est d'accord, hein ?
Oui, n'importe qui peut créer une blockchain. En fait, dans une blockchain, il y a beaucoup, beaucoup de choses. Il y a la technologie qui est utilisée. Quand on a la technologie qui est Bitcoin, il y a une autre technologie qui est Ethereum, il y a une troisième qui est Polkadot. Ça, ce sont des technologies comme des systèmes d'exploitation, on va dire, comme j'ai les systèmes d'exploitation Linux, Mac ou Windows, voilà, etc. Ensuite, donc ça, c'est la technologie qui est utilisée. Ensuite, les blockchains, il faut instancier, on va dire, cette technologie-là pour commencer à l'utiliser. Et ça, n'importe qui peut le faire aussi, puisque tout ça est open source. Maintenant, pour que ça puisse vraiment remplir ses fonctionnalités de blockchain, il faut qu'il y ait suffisamment d'acteurs indépendants qui exécutent des programmes qu'on appelle les nœuds pour valider les transactions. Parce que sinon, ça n'a quasiment pas de différence avec un système centralisé où on n'a pas besoin, avec une base de données, on va dire, la confiance qu'on peut faire dans un système qui serait opéré par un seul acteur ou deux, trois acteurs qui se connaissent bien, elle est très peu différente de la confiance qu'on peut avoir dans une base de données classique. Donc c'est tout l'enjeu en fait du développement des blockchains.
C'est-à-dire que
n'importe qui peut le faire.
Ouais, l'élément essentiel dans le développement d'une blockchain, si moi demain je veux faire la blockchain Super Patrick en utilisant le système Ethereum, je peux techniquement le faire parce que c'est open source, hein, c'est ce que tu me dis.
Oui.
Mais le problème, c'est qu'il va falloir que je trouve suffisamment de gens qui ne me sont pas liés directement pour que la confiance s'installe, qui fassent tourner des nœuds indépendants et pour que le système soit fiable. On a d'ailleurs eu un problème avec la blockchain du Bitcoin, où on se rendait compte que, j'imagine que ça a changé aujourd'hui, mais il y avait de plus en plus de gens qui faisaient tourner énormément de nœuds, qui étaient liés les uns aux autres, et on s'approchait dangereusement de la limite des 50%. J'imagine que maintenant, ça a peut-être été résolu. D'accord.
Mais... Alors, en fait, le point que je vois là-dedans, c'est concrètement la rareté du coup du NFT vient de la confiance qu'on met en la technologie. Donc, je n'aurais pas eu des mots aussi précis qu'on vient d'entendre pour le coup. Mais très clairement, pour moi, ce qui est une blockchain d'infrastructure, c'est la blockchain sur laquelle c'est la technologie sur laquelle on va baser le projet. Donc, comme l'a cité, on a Ethereum et Bitcoin, notamment Ethereum, qui, je pense qu'on peut le dire, hein, c'est lui qui a rendu connu les NFT. Parce que c'est le plus abordable pour créer des NFT facilement. Et le truc qui est assez dingue et qu'il faut quand même garder en tête, c'est que quand on relance sa blockchain, du coup, on doit aller générer, on va dire, cette confiance et donc cette décentralisation, prouver qu'il y a bien plusieurs personnes qui contrôlent ce réseau. Et aujourd'hui, il y a même des NFT qui sont cross-chain. C'est-à-dire qu'on va pouvoir mettre un NFT à la fois sur le réseau Bitcoin et à la fois sur le réseau Ether. Donc, on a quand même deux des réseaux qui ont quand même fourni des preuves à travers le temps et qui ont montré qu'ils étaient là hier et ils seront avec de grandes, grandes probabilités, ils seront là demain. Et c'est ce qui donne justement cette rareté au NFT. Je rejoins totalement l'idée que si jamais on base des NFT sur une blockchain toute jeune qui n'a pas encore fait ses preuves, ben on n'a pas encore le côté rareté. Parce que si la technologie fait défaut ou si quelqu'un arrive à s'emparer de la gouvernance du réseau, ben en fait, notre œuvre d'art, elle est sur un réseau que quelqu'un peut contrôler. Et dès qu'il y a un être humain qui peut prendre le contrôle, c'est jamais très très bon dans la blockchain.
Et effectivement, pour bien expliquer aux auditeurs, l'intérêt de la blockchain, c'est que les choses qui y sont inscrites sont fiables mathématiquement par des questions de... quand on parle de crypto-monnaie, c'est parce qu'il y a du chiffrement là-dedans. Et donc, une chose qui est inscrite est validée par plusieurs nœuds, enfin par tous les nœuds de la blockchain. Et donc, c'est extrêmement fiable. Une opération qui est inscrite est disponible et ouverte à tout le monde. Tout le monde peut regarder l'opération qui a été inscrite. Et une fois qu'elle est inscrite, elle ne bouge plus. Et elle est, a priori, alors on va peut-être... on va dire, oui, rien n'est jamais infalsifiable. En l'état actuel des choses, cette inscription, tant que le réseau est fiable, est infalsifiable. Encore une question technique. Du coup, la blockchain Bitcoin, il n'y en a qu'une seule, on est d'accord. Et la blockchain Ether ou Ethereum, il n'y en a qu'une seule, ou en tout cas une principale. J'imagine qu'il y a des gens qui peuvent lancer, je ne sais pas, les Dogecoin, par exemple, s'étaient lancés sur une blockchain qui était de la technologie de la blockchain du Bitcoin, mais qui était une autre séparée. Mais si on parle de Bitcoin, on n'a qu'une seule blockchain Bitcoin, on est d'accord.
Tout à fait. En fait, alors... on peut partir... Pardon.
Vas-y, vas-y, Owen, vas-y.
On peut partir de la même base technique, c'est-à-dire faire ce que l'on appelle un fork, donc copier un système déjà existant pour en développer un nouveau, Mais c'est pas pour autant que les validateurs qui travaillent tous les jours pour sécuriser le réseau principal Bitcoin vont se mettre à sécuriser le nouveau projet. Donc on peut partir de la même nomenclature, oui. Par contre, derrière, il va falloir quand même, si on veut du moins copier-coller une technologie blockchain, il va falloir animer ce réseau-là pour qu'il soit bien décentralisé. Je peux copier Bitcoin et en faire une version où je contrôle tout seul et où je serai le seul maître incontesté puisque je n'aurais dit à personne de venir sur ce réseau, quoi.
Mais concrètement, le réseau Bitcoin, il marche sur une blockchain. Quand on parle de Bitcoin, on parle de la blockchain Bitcoin et il n'y en a qu'une. Voilà. Ok.
Oui, c'est ça. En fait, une blockchain, c'est quoi ? C'est une chaîne. C'est comme son nom l'indique, une chaîne de blocs, en fait. Et quand on dit sur Bitcoin, il y a une blockchain, on a une chaîne de blocs unique qui est répliquée sur tous les nœuds, en fait, qui est la blockchain Bitcoin. Maintenant, ce qui est aussi assez fou quand on explique c'est avec ces blockchains, c'est qu'en fait, il y a par exemple une autre blockchain qui est basée sur la même technologie qui s'appelle Bitcoin Cash, qui au départ, qui est un fork, c'est-à-dire une copie de Bitcoin. Pourquoi ? Parce qu'à un moment donné, les gens qui gèrent la gouvernance de Bitcoin ont décidé qu'ils n'étaient plus d'accord, ils n'étaient plus complètement d'accord sur les règles. Et donc, il y a une partie qui a décidé de garder le Bitcoin historique, on va dire, qui s'appelle aujourd'hui Bitcoin Cash, et la chaîne Bitcoin actuelle, qui à ce moment-là était la nouvelle chaîne Bitcoin, qui est utilisée. Et ce qui est dingue, c'est qu'au moment de la séparation, ceux qui avaient un Bitcoin sur la première blockchain, eh bien, ont eu un Bitcoin sur la première blockchain et aussi un Bitcoin sur la deuxième blockchain. Et
aujourd'hui, donc, elle a vraiment été dédoublée complètement.
Exactement, elle a vraiment été dédoublée. Et aujourd'hui, un Bitcoin Cash, je ne sais pas combien ça vaut, mais ça vaut pas mal d'argent. Ça ne vaut pas les 46 000 euros d'un Bitcoin, mais ça doit valoir, il faudrait rechercher sur Internet.
$524.
Ça vaut, pardon ?
$524.
Voilà, ouais, donc c'est pas rien quand même.
Voilà. Et c'est pas rien. Et donc, ça veut dire que ceux qui avaient 100 Bitcoin, ils étaient déjà beaucoup, ils étaient déjà riches, ils étaient contents, mais ils avaient aussi 100 Bitcoin Cash au moment de la séparation. Il y a eu la même chose avec Ethereum qui s'appelle Ethereum Classic. Et donc, en fait, on peut, et ça, c'est aux gens qui sont un peu dans la finance, ça leur paraît complètement aberrant, mais on peut du jour au lendemain se retrouver avec un équivalent, avec de la valeur, de la vraie valeur qui est monétisable. Parce que certains acteurs décident ne sont plus d'accord avec les règles et donc décident de copier la blockchain. Par contre, si moi je décide de copier ma blockchain, ça va pas générer de copier Ethereum, ça va pas générer beaucoup de valeur, je pense.
Et c'est drôle, mais là on voit la loi de l'offre et de la demande. Hein, ce qui fait que Bitcoin Cash représente aujourd'hui 1% du prix de Bitcoin. Hein, si je dis pas de bêtises, Bitcoin à $55 000, Bitcoin Cash à $500. Eh bien, c'est parce qu'il y a 1% de la communauté Bitcoin qui aujourd'hui croit en ce petit projet qui est devenu Bitcoin Cash, petit proportionnellement et en comparaison à Bitcoin, bien sûr. Et donc, si on avait 50% des gens qui, au moment du fork, auraient arrêté de soutenir Bitcoin pour soutenir ce nouveau projet, bah, y a de grandes chances que le Bitcoin, lui, soit divisé par deux au niveau de sa valeur et que le nouveau projet soit à peu près de la même valeur que Bitcoin. C'est toujours une question de proportion. Et comme on dit, quelle personne va se mettre à suivre quelle chaîne ? C'est ça qui génère la valeur. Et pour la petite histoire et le petit clin d'œil, la blockchain Bitcoin s'appelle Bitcoin avec un grand B. Et les jetons qui sont échangés sur cette blockchain, ce sont les Bitcoins avec un petit B. Ce qui fait que c'est des petits détails qui font que quand un débutant arrive et qu'on essaye de lui expliquer le truc, il a la tête qui tourne un petit peu.
Oui, effectivement. Et du coup, ils ont la valeur, bon ça on le comprend bien, hein, je pense que tout le monde a acquis cette notion, ils ont la valeur qu'on leur donne de la même manière que d'autres choses ont la valeur qu'on leur donne, qu'on parle de biens physiques comme l'or ou les diamants ou de fiat. Currencies, je ne sais plus comment ça se dit en français.
De fiduciaire, monnaie fiduciaire.
Merci. De monnaie fiduciaire, comme l'euro ou le dollar. Et quand on parle de fork, donc, on parle d'une part de la possibilité de répliquer la technologie, les méthodes, finalement, comme on peut le faire avec, quand on dit un fork d'Android, on prend le système d'exploitation Android qui est en open source et on va l'utiliser pour nos fins. Il y a plein de développeurs, enfin plein de constructeurs qui ont des versions d'Android à eux, comme d'ailleurs Google. Hein, Android utilisé sur les téléphones Android, c'est une version d'Android. Bon, la version sans doute la plus importante, mais il n'empêche, on peut tout à fait, comme le fait Huawei, prendre la technologie open source Android, le système d'exploitation open source Android, et l'utiliser pour faire d'autres choses, à d'autres fins. Et il y a plein d'utilisations d'Android. Mais là, quand on parle de fork dans le domaine de la blockchain et des crypto-monnaies, on peut soit faire ça et commencer une nouvelle blockchain avec une nouvelle crypto-monnaie, comme j'évoquais Dogecoin tout à l'heure, qui était un petit peu une blague d'il y a quelques années, qui avait été créée au moment de la folie des bitcoins, qui a une valeur bon, qui fluctue, mais qui est franchement plutôt basse par rapport au bitcoin. Et on peut aussi faire un dédoublage de la blockchain et du coup, c'est ce dont tu parlais Fabrice, créer de la valeur de nulle part d'une manière qui est impossible ailleurs, même si cette valeur est indexée à la confiance qu'on va faire à cette nouvelle version de la blockchain et de la crypto-monnaie comme on l'a expliqué.
En fait, ce qu'on fait à ce moment-là, c'est qu'on récupère l'historique au lieu de repartir de zéro. Et de recréer un nouveau premier bloc d'origine. On ne recrée pas un nouveau premier bloc, on reprend toute l'historique de la blockchain que l'on fork, que l'on copie. Et donc, si j'avais un certain nombre de Bitcoin ou de crypto-monnaies sur l'ancienne blockchain, ben, j'ai exactement le même nombre sur la nouvelle blockchain. Et de la même façon, pour peu qu'il y ait suffisamment d'acteurs qui fassent confiance, eh ben, on ne pourra pas m'en enlever ou m'en rajouter ou modifier ce nombre de crypto-monnaies si je ne suis pas d'accord.
Et du coup, pour conclure sur les NFT, pardon Owen, tu voulais ajouter quelque chose ?
Non, juste un petit truc du coup pour rappeler que bah, du coup, quand on va forker une chaîne, comme par exemple Ether et Ether classique, eh bien du coup, il y a quand même une majorité, il y a généralement un projet qui est accepté. Surtout quand il y a un fork, c'est rare qu'on garde les deux et qu'ils soient très utiles, il y en a toujours un qui prend l'ascendant. Mmh. Ether a pris l'ascendant sur Ether classique, alors qu'Ether classique était le projet de base, mais qui avait eu un problème. Et aujourd'hui, Ether Classic a déjà vécu de nombreuses attaques 51. Parce que comme c'est la même technologie, c'est le même matériel pour sécuriser. En gros, c'est les mêmes, on va dire, natures de validateurs. Sauf que là où Ether est énorme et de par sa taille, un territoire très complexe à conquérir, eh bien Ethereum Classic, lui, un petit 4 ou 5% des mineurs qui étaient sur le réseau Ether ont suffi à représenter 51% des mineurs sur le réseau Ether Classic. Et c'est ça qui devient dangereux quand il y a un fork et qu'il y en a un qui est vraiment, on va dire, sous-accepté. Donc, quand il n'y a pas du tout une égalité entre les deux projets et qu'il y a un projet qui représente 1% de la taille de l'autre, c'est que du coup, les mineurs peuvent devenir une menace sur le plus petit projet et donc le plus vulnérable.
Mais la menace sur le projet vulnérable ne met pas en danger le projet moins vulnérable. Hein, c'est...
Pas du tout, absolument pas, tout à fait.
Oui, d'accord. Et quand tu dis effectivement attaque 51, pour repréciser une chose qu'on disait tout à l'heure, la confiance vient du fait qu'il n'y a pas un acteur qui peut opérer 51% du réseau. À partir du moment où un acteur peut opérer plus de 50% du réseau, il pourrait utiliser de manière malicieuse ou de manière faire ce qu'il veut et la confiance est cassée.
Principalement dépenser deux fois les mêmes pièces.
Pardon ?
C'est le gros point, c'est ce qu'on appelle la double dépense. Exact. En gros, quand on est majoritaire, on peut mentir à la blockchain, ou du moins, on peut essayer. Et en gros, bah, j'ai un bitcoin, je le dépense deux fois, et je dis non, il n'y a pas de souci, j'ai le droit. D'accord. Et c'est ça le problème.
Alors, juste une question à propos des NFT avant d'enchaîner sur les crypto-monnaies et la blockchain plus spécifiquement. Les NFT sont donc des tokens, des jetons dans une blockchain. Est-ce qu'on peut créer n'importe quel type de jetons dans n'importe quelle blockchain ? En gros, est-ce qu'on peut faire des NFT ? Tu semblais dire que c'est le cas avec les bitcoins colorés. On peut utiliser des NFT dans n'importe quel type de blockchain, comme celle de la bitcoin ou de celle d'Ether. Ou alors, est-ce que certaines les blockchains doivent être prévues pour les NFT spécifiquement ?
En fait, il faut. Alors, le Bitcoin n'était pas prévu pour les NFT au départ. Pourtant, en fait, il y avait une possibilité de créer, il y a toujours d'ailleurs, de créer des scripts, ce qu'on appelle des scripts sur Bitcoin, qui permettent de rajouter quelques fonctionnalités. Ça ne va pas hyper loin, mais qui permettent de rajouter quelques fonctionnalités aux fonctionnalités de base qui permettent de faire des colored coins qui sont des NFT. Il n'est pas nécessaire que la blockchain ait été prévue. Souvent, en fait, les caractéristiques intrinsèques du blockchain font qu'on peut assez facilement faire des NFT. Pourquoi ? Parce que l'une des caractéristiques, justement, c'est de faire que n'importe qui ne peut pas créer des nouveaux tokens ou des nouveaux coins comme il veut. Parce que sinon, ça fait perdre complètement la valeur au la crypto-monnaie sous-jacente. Et donc, ces crypto-monnaies-là, les nouvelles crypto-monnaies, sont créées par des algorithmes. Et un NFT, à un moment donné, ben, il doit être créé à partir d'un moment donné pour dire que ce NFT-là n'existait pas à un moment donné, il existe. Voilà. Et donc, soit on est sur des blockchains très génériques comme Ethereum qui permettent de faire des développements, dont des développements NFT, soit on utilise des fonctionnalités de la crypto-monnaie de base, soit l'Ether, mais là, c'est pas l'Ether, c'est les tokens, mais Bitcoin pour créer les NFT. Donc, il n'est pas nécessaire que la technologie soit prévue pour les NFT. Il est possible que certaines technologies blockchain ne permettent de faire des NFT que très difficilement. Que ce soit complètement impossible, je ne sais pas, je ne pense pas que ça puisse être complètement impossible. Mais ça peut être assez compliqué et il peut falloir détourner le protocole de façon importante pour créer les NFT.
Après, bien entendu,
Vas-y, Owen.
Quand la technologie a été pensée pour, c'est toujours plus simple. Bitcoin, du coup, il y a le noyau de cette rareté numérique. À partir de là, on peut créer des NFT dessus. Mais c'est vrai qu'Ether est arrivé avec un peu plus de recul en mettant des outils qui permettent de le faire plus facilement. Et c'est généralement cette ouverture et cette accessibilité qui va vraiment faire que c'est par exemple Ether, je pense qu'on peut le dire, qui a porté la technologie NFT et qui l'a rendue, on va dire, beaucoup plus mainstream. Bitcoin n'avait pas proposé suffisamment d'outils, mais en tout cas, d'un point de vue technique, c'est totalement réalisable, oui.
D'accord. Et effectivement, on se souvient que dans le cas de l'Ether, c'est CryptoKitties qui était le premier système utilisant des NFT qui était vraiment populaire et il tournait sur Ethereum, effectivement. Est-ce que l'essentiel des NFT sont sur le réseau Ether, du coup ?
Oui, la valeur, oui, je pense.
Oui, d'accord. Parlons un petit peu plus de crypto-monnaie et de blockchain, du coup. Je voudrais vous poser des questions qui fâchent sur les questions de coûts et de minage et de taille de blockchain, etc. Mais avant ça, parlons de l'utilisation qu'on a aujourd'hui des bitcoins. Parce que c'est vrai qu'on en parle depuis longtemps. Et pour ceux qui ne suivent pas les choses de très très près, on a peut-être une idée un peu floue de ce à quoi peuvent servir des bitcoins aujourd'hui. Et les choses ont continué à avancer depuis l'explosion de popularité des crypto-monnaies. Et j'ai l'impression qu'on peut aujourd'hui s'en servir pour énormément de choses. Il y a des questions un petit peu plus macro, comme est-ce que c'est une valeur de paiement ou est-ce que c'est une valeur refuge d'épargne. Et puis, des questions plus micro, comme aujourd'hui, si j'ai un demi-bitcoin, qu'est-ce que je peux concrètement faire avec, acheter avec ? J'ai l'impression qu'il y a tellement de systèmes qui permettent de payer en bitcoin aujourd'hui, et notamment PayPal, qu'on peut faire quasiment tout avec des bitcoins. Owen, est-ce que tu me contrediras sur ce point ?
Non, en fait, et pour revenir, c'est drôle, mais on peut revenir au point qu'on avait juste avant sur les NFT sur Bitcoin. Là où on ne peut pas encore tout faire techniquement avec Bitcoin, c'est-à-dire que tout le monde ne l'accepte pas, eh bien, il y a des petites surcouches, il y a des, comme on pourrait revenir sur le mot qu'on a choisi, il y a des petits scripts et des gens qui développent des surcouches qui font qu'on va pouvoir l'utiliser pour faire un peu ce qu'on veut. Prends un exemple très simple. Beaucoup de gens n'acceptent pas le Bitcoin aujourd'hui dans leur magasin. Pourtant, il y a des banques crypto qui ont développé des cartes Visa avec lesquelles on peut avoir du Bitcoin sur son compte et le changer instantanément en euros pour réaliser un paiement. Et donc, quand ce n'est pas Bitcoin qui a été accepté directement, on a toujours un moyen plus ou moins détourné d'utiliser ces Bitcoins pour arriver à ses fins, en fait.
C'est-à-dire qu'on peut, je peux ouvrir un compte sur une banque qui gère les crypto-monnaies et ils m'émettent une carte Visa qui est liée à mon compte sur lequel j'ai mes bitcoins. Et quand je paye à mon Lidl du coin mes courses pour 35 euros, le magasin va recevoir 35 euros et va voir 35 euros. Et l'ordre va être donné à la banque qui va convertir ces 35 euros en valeur Bitcoin au moment où je fais la transaction, plus ou moins, et extraire de mon compte l'équivalent en Bitcoin. C'est comme ça que ça fonctionne.
Exactement. Bitcoin, Visa, Mastercard, qui eux-mêmes ont annoncé être en train de travailler sur le fait que n'importe quel système de paiement Visa pourra accepter le Bitcoin à l'avenir. Donc ouais. C'est carrément Visa et Mastercard qui, à force d'être utilisés par des entreprises pour ce genre d'activité, ont fait une annonce, un petit peu après Tesla d'ailleurs, pour dire qu'eux-mêmes allaient inclure dans le réseau Visa et dans le réseau Mastercard un moyen de dépenser ces crypto-monnaies. Quoi. Donc oui, c'est exactement ça.
Et même, en fait, on peut le faire avec Bitcoin, mais même, on a une des cartes en fait, qui permet de faire ça, c'est la carte Binance, que évidemment, Owen connaît très bien. Là, en fait, on peut même choisir. En fait, on a, une fois quand on a sa carte, quand on va sur son application mobile, on a l'ensemble des crypto-monnaies qu'on a dans le portefeuille, ou de l'euro, parce qu'on peut aussi avoir directement de l'euro, hein, qui permet ensuite d'en acheter ou de faire des trades. Et on dit, ben voilà, je veux maintenant payer avec du Bitcoin. Et si la deuxième transaction, je veux utiliser mes Ethereum, mes Ether, et ben en fait, je glisse le Ether en première position dans la liste des cryptos, et la prochaine transaction, elle va se faire en Ether avec le cours de change de l'Ether au moment de la transaction, comme ça se fait en fait quand on a un compte en banque en USD et qu'on paye ici en Europe avec sa carte sur son compte en banque en USD. Il y a un calcul de change qui se fait automatiquement. La différence, c'est que ce n'est pas le réseau Visa qui le fait, mais là, effectivement, c'est Binance qui fait le calcul lui-même, ou la plateforme qui a émis la carte. Donc, voilà.
C'est, du coup, mais en fait, on y est, quoi. Ça y est, c'est terminé. On a les bitcoins sont utilisables partout. À partir du moment où on est connecté au système de paiement les plus utilisés, comme les cartes de paiement, on peut utiliser, peut-être par ce petit artifice, mais on peut utiliser des bitcoins absolument partout.
La seule chose qu'on ne peut pas encore faire aujourd'hui avec une carte comme ça, c'est envoyer directement des bitcoins. C'est-à-dire faire en sorte que le commerçant reçoive des bitcoins sur son compte. Mmh. Ça, on peut le faire par la technologie bitcoin, par des applications, on peut le faire par plein de façons, en scannant des QR codes, mais pas encore avec une carte de paiement.
C'est ça. Mais il y a des outils dans l'autre sens qui permettent à un commerçant d'accepter et de conserver directement la crypto-monnaie. Mais c'est sûr qu'en passant par le change Visa, et là je rejoins Fabrice, c'est toujours pas possible. Mais en attendant, oui, que ce soit dans la dépense ou dans l'acceptation, il y a aujourd'hui un panel de produits qui permettent de se munir du niveau d'acceptation qu'on veut et de dépenser ses bitcoins comme on le souhaite.
Exactement. Et en fait, le seul problème, c'est la volatilité. En fait, c'est que le prix du Bitcoin entre maintenant et dans un quart d'heure, il peut beaucoup, beaucoup varier par rapport au prix du dollar, par rapport à l'euro. Mais là encore, il y a des prestataires de services, notamment au Japon, en fait, qui sont des intermédiaires qui garantissent le coût, le taux pendant une demi-journée. Donc, ils vous disent, ce samedi matin, nous, en fait, quand vous passez par nous, on vous échangera des Bitcoins contre des euros à tel taux. Et on est d'accord. Alors, ils font un calcul de moyenne, en gros, pour simplifier les choses, mais on voit des prestataires de services qui commencent à adresser les difficultés qu'on peut avoir avec les crypto-monnaies qui sont volatiles, il y en a d'autres, voilà, en garantissant, sur une période qui reste assez courte, les taux, ce qui favorise aussi l'acceptabilité pour les gens qui connaissent ce type de service.
Et on va en venir à ces sujets aussi, les questions de volatilité et de tous ces problèmes inhérents à la technologie blockchain, ou plus spécifiquement la blockchain Bitcoin. Mais là, on parle de calquer l'utilisation sur les utilisations qui existent déjà. Moi, je n'ai pas vraiment de visibilité sur quelque chose qui va un petit peu plus loin, mais est-ce qu'on peut imaginer des utilisations qui seraient spécifiques à cette technologie et à ces crypto-monnaies qu'on ne peut pas avoir aujourd'hui et qu'on n'imaginait pas forcément avant qu'elles n'existent, les crypto-monnaies?
Il y a déjà un petit truc qui, pour beaucoup de gens, n'est pas encore suffisante, même si on a l'impression de pouvoir dépenser ses bitcoins partout. Pour ceux qui veulent dépenser leurs bitcoins avec ses valeurs, donc le côté totalement décentralisé, le commerçant qui accepte directement le jeton bitcoin, pour faire super clair, c'est pas encore présent. Donc pour eux, il y a quand même encore une étape, en fait. D'un point de vue de l'usage, on a bien avancé, mais pour la personne qui se veut pouvoir dépenser vraiment librement son Bitcoin, elle veut pouvoir le dépenser de pair à pair, et là, c'est encore plus compliqué, il reste un petit peu de travail sur ça, quoi.
Mais ça se collerait aux utilisations qu'on a avec les monnaies fiduciaires. Moi, je suis curieux de savoir si les bitcoins permettent des choses auxquelles je ne pense pas, et ça se trouve, la réponse est non, hein, il n'y a pas de choses spécifiques. Alors, ou est-ce que c'est simplement l'idée de remplacer les monnaies fiduciaires, comme on l'a imaginé au début du bitcoin, par une monnaie décentralisée et non contrôlée par un point central, justement ?
Si, en fait, un exemple qui est un peu, qui fait un peu science-fiction, mais qui est possible. Pour ça, en fait, il va falloir ce qu'on appelle, on n'en a pas encore parlé aujourd'hui, mais une couche supplémentaire qu'on appelle des smart contracts, des contrats intelligents, en fait, qui permettent de mettre, d'ajouter des règles qui ont les mêmes caractéristiques qu'ont les crypto-monnaies, en termes de sécurité, de décentralisation, etc., etc., d'ajouter des règles pour effectuer ou pas un paiement. Aujourd'hui, quand je prends mon Uber, en fait, et que je me fais payer automatiquement, déjà débiter ma carte bancaire automatiquement, parce que j'ai fait la course, eh bien, à un moment donné, si Uber décide du jour au lendemain de me débiter pour une course que je n'ai pas fait, eh bien, en fait, il pourra le faire. Moi, je pourrais toujours réclamer, etc. Mais en tout cas, le compte va être débité. Si maintenant, on imagine que tout ça soit fait avec une crypto-monnaie, l'Ethereum, par exemple, avec un smart contract, et que Uber a le droit de me débiter l'argent sur mon compte, enfin, sur mon adresse Ethereum, seulement si mon téléphone mobile a signé le fait que j'ai bien fait un déplacement de autant de kilomètres pendant la dernière heure, demi-heure, etc. Mon téléphone, il sait capter ça, il sait capter que j'ai fait un déplacement, et en fait, il peut, à un moment donné, signer une transaction qui ne va pas être une transaction financière, mais un fait qui va dire, effectivement, Fabrice, il est bien fait 10 kilomètres en un quart d'heure à Paris pendant cette dernière heure. Eh bien, en fait, si je n'ai pas cette preuve-là, en même temps, eh bien, le compte ne pourra pas être débité. Et ce que va permettre la technologie blockchain qui n'est pas permis aujourd'hui, qui est très compliqué, où on est obligé de faire confiance aux prestataires de services, c'est le fait qu'un paiement ne pourra être fait que quand la preuve d'utilisation du service aurait été fournie en même temps. Et cette preuve, elle pourra être générée automatiquement par des ordinateurs, par des objets connectés, par tout ce qu'on veut, et pas forcément déclarée par le prestataire de service ou le commerçant qui offre le service. Donc, va permettre aussi de faire des paiements machine to machine beaucoup plus facilement.
Donc vraiment, on a cette idée que c'est une question de confiance qui est décentralisée, et là où tout ce que tu décris serait possible techniquement avec des prestataires de services auxquels on doit faire confiance, là c'est possible grâce à des opérations automatisées qui surtout, là les gens vont me dire « Ah mais attends, un ordinateur peut se tromper aussi, ou on peut les... il peut y avoir des problèmes ». Oui, bien sûr, mais là, on a une trace... à laquelle on peut faire confiance dans la blockchain de tout ce qui s'est passé. Donc, c'est auditable et auditable de manière sécurisée et beaucoup plus sécurisée que ce qu'on a jusqu'à maintenant. Donc,
complètement. On peut voir dans la blockchain la règle qui va s'exécuter. Enfin, bon, il faut connaître le langage de développement, hein, mais un auditeur, comme il faut connaître un bilan comptable pour être capable de valider est-ce que le bilan est OK ou pas, il faut quelqu'un pourra valider la règle qui va s'exécuter au moment où on veut déclencher le paiement.
Et puis en fait, toutes les valeurs de Bitcoin, parce qu'il y a du coup ce côté décentralisé, mais par exemple, le Bitcoin est aussi transparent. Et comme on peut suivre ces transactions, on pourrait imaginer plein d'usages de paiement où la transparence est importante et nécessaire, et où avec le système actuel, on doit faire confiance à celui qui nous promet que nos fonds vont aller d'un point A à un point B, alors que dans la blockchain Bitcoin, encore une fois, et c'est juste un autre angle de Bitcoin en fait, mais on va pouvoir, parce qu'il est transparent, être certain de sa destination, être certain de ce à quoi il va être utilisé, alors qu'on ne pourrait pas le faire avec un paiement normal.
Et on a aussi, là on quitte un petit peu la question des crypto-monnaies, mais on se souvient qu'on a aussi beaucoup de fabricants ou de suivi de marchandises qui se fait par des blockchains, et c'est cette caractéristique des blockchains qui est important là-dedans, c'est que une fois que, par exemple, l'opération de transfert de tel camion à tel conteneur a été enregistrée dans la blockchain, bah, c'est une liste, mais une liste à laquelle on peut faire confiance et qu'on peut aller auditer et que tout le monde peut voir, qui est public finalement. On parle souvent de toutes ces choses en disant « Ah ben, on peut avoir des bitcoins qui sont utilisés pour des questions, pour des opérations illégales. » Alors oui, bien sûr, c'est possible, mais ça doit être fait avec des pseudonymes parce que tout est public dans la blockchain. N'importe qui peut aller surveiller, vous me dites si je me trompe, hein, mais n'importe qui peut aller regarder tout ce qui se passe dans la blockchain depuis la première opération je ne sais plus quand c'était, en 2010 ou 2011.
Ah, complètement.
Après, ça reste pseudonyme.
Vas-y, Owen. Ouais.
Vas-y, Owen.
Alors, ça reste pseudonyme dans le sens où on ne sait pas qui est derrière une adresse. Aujourd'hui, oui, avec la régulation, s'il y a un pépin, on peut savoir derrière l'adresse 24289B qui se cache derrière cette adresse, car au moment où cette personne a acheté ou vendu de la crypto-monnaie, elle a dû donner son identité. Mais sinon, oui, à part le fait que certaines adresses sont encore pseudonymes, on ne sait pas qui est derrière l'adresse, on peut remonter et lire toutes les transactions de tous ces blocs depuis le jour 1. Tout à fait.
Est-ce qu'il y a des... Vas-y, Fabrice.
Ce qui fait qu'il est très... En fait, il est, de mon point de vue, en tout cas, plus difficile de faire du blanchiment ou de faire de la fraude via blockchain que via le système classique, où il faut rentrer dans les banques, il faut aller voir. Parce que même si mon adresse est... C'est vrai que quand je crée une adresse, elle est pseudonyme, en fait. Les gens ne savent pas. Si je ne me la crée pas par l'intermédiaire d'une plateforme, mais directement par le système Bitcoin, les gens ne sauront pas que c'est moi qui est derrière et il ne sera pas possible de le savoir. Par contre, si je dis « Ah ben tiens, Owen, envoie-moi 0,001 Bitcoin », que Owen me l'envoie à partir de Binance, par exemple, eh bien, en fait, la trace que moi j'aurais reçue 0,001 Bitcoin à partir de là, eh bien, elle sera connue. Et à un moment donné, si mon adresse est suspecte et qu'on veut me retrouver, eh bien, qu'est-ce qu'on va faire ? On va aller voir tous les gens qui m'ont envoyé des adresses, est-ce qu'on peut les retrouver ? Et si on ne peut pas les retrouver, eux, on va aller voir tous les gens qui ont envoyé de l'argent à ces gens-là, etc. Et la probabilité qu'à un moment donné, on retrouve quelqu'un qui est passé par une plateforme, elle est énorme. Et après, on peut refaire toute la chaîne. C'est un peu comme avec les tests ADN, ceux qui ont retrouvé les criminels, non pas parce qu'ils avaient fait eux-mêmes leur test ADN sur une plateforme qui le permet, mais parce que leur beau-frère l'avait fait et ils ont trouvé que le beau-frère du criminel était connu quelque part.
D'accord. Très intéressant, effectivement. Et un tout petit détail qu'on n'a pas précisé, mais j'imagine que les gens savent, l'une des caractéristiques des bitcoins, c'est qu'on peut les diviser de manière presque infinie. Je ne sais pas combien de chiffres après la virgule on peut faire, mais même si les bitcoins atteignent des sommes complètement folles, on peut encore les diviser. C'est prévu pour les diviser à tel point qu'on aura toujours la possibilité de faire des transactions avec des valeurs très faibles.
Oui. 8 chiffres, je crois, de tête.
8 chiffres, oui, donc on a de la marge. Quoi.
En hommage à son créateur.
C'est pardon ? On t'a pas entendu.
On appelle ça un Satoshi. Oui. Du coup, la plus petite unité de Bitcoin, qui pourrait d'ailleurs un jour, on pourrait rajouter 6 zéros derrière la virgule. Hein. Suffit que la majorité soit pour et on pourrait faire une mise à jour au cas où Bitcoin devienne trop cher. mais en tout cas, oui, c'est ça.
Entre parenthèses.
C'est d'ailleurs pour cette raison que le nombre. C'est parce que le nombre de chiffres après la virgule est fini que le nombre de Bitcoin créés va s'arrêter à jour. Parce que comme on divise à chaque fois par deux ce qu'on appelle la récompense de minage, donc la création de nouveaux bitcoins, bien à un moment donné, une fois qu'on aura divisé par deux, le nouveau chiffre, il n'y aura pas suffisamment de chiffres après la virgule pour pouvoir le représenter dans la blockchain. Et c'est comme ça qu'en 2040 ou 70, ou non, 140, 2140 je crois environ, on n'aura plus de bitcoins créés.
Ah, on en est quand même très loin. Moi, je me demandais si on ne commençait pas à s'en approcher, mais 2140, oui, on a le temps encore quand même.
Oui. Il ne reste pas beaucoup de bitcoins à créer par rapport au nombre de bitcoins déjà créés, mais l'année à laquelle ça va s'arrêter, c'est, je ne sais pas, Owen, si tu sais de tête, mais il me semble que c'est 2140.
J'ai peur de dire une bêtise. J'avais cet ordre de grandeur un peu après 2100. Et c'est vrai qu'à chaque fois, on dit, en fait, comme on divise par deux la récompense, on n'arrivera théoriquement jamais à zéro. Parce que même si on prend 2, qu'on le divise par 2, ça fait 1, on divise par 2, ça fait 0,5. Et même en coupant la poire en 2, ça va devenir infime, mais il y aura toujours quelque chose à diviser par 2. Et c'est vrai, je viens de le réaliser, ce que dit Fabrice, c'est qu'à un moment, forcément, ça s'arrête, parce qu'on ne peut plus diviser par 2, sinon on va aller dans une valeur qu'on n'a pas encore. Et si un jour, d'ailleurs, les gens devaient voter pour rajouter des décimales, je pense que ce serait dans cette période-là.
Ouais, et du coup, ça pourrait recréer une sorte de chasse au trésor et à l'or, une ruée vers l'or, puisqu'on rajouterait tout à coup, si on rajoute 3 décimales ou 6 décimales, ça crée énormément de temps de minage en plus possible.
Clairement, mais comme il y a déjà des récompenses de transactions, qui sont les frais de transaction, hein, les mineurs ne sécurisent pas la blockchain que pour les nouveaux bitcoins. Aujourd'hui, c'est une part conséquente des revenus, mais plus le temps passe, plus cette part de nouveaux bitcoins va diminuer, mais il y aura quand même les frais de transaction. Et ce sont ces frais de transaction-là qui vont devenir le standard de rémunération à l'avenir, car même si on rajoute quelques décimales, je pense que dans une centaine d'années, les frais de transaction seront quand même plus importants.
D'accord. Alors, je veux qu'on parle des sujets un petit peu plus compliqués, mais j'ai deux questions avant ça. D'une part, est-ce qu'on sait finalement qui est Satoshi Sakamoto ou c'est... C'est toujours le mystère. On a eu des théories, mais rien de prouvé.
Il y a plein de théories et il y en aura toujours. C'est ce qui donne un petit peu ce côté mythique à Satoshi Nakamoto, mais pour le coup, on ne sait pas qui est.
Pardon, oui. D'accord, on ne sait pas. Et l'autre question que j'ai, c'est quel est le plus utilisé quelle est la plus utilisée des crypto-monnaies ou des blockchains? On a les deux les plus connus qui sont Bitcoin et Ethereum. Est-ce que vous pensez que les deux vont continuer en parallèle à jamais, ou alors on va dire quand même à un horizon un petit peu plus raisonnable à 20-30 ans, ou est-ce que vous pensez que l'une d'entre elles va prendre l'ascendant?
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
En fait, elles sont tellement différentes que, de mon point de vue, en tout cas, elles vont continuer en parallèle.
D'accord.
Bitcoin ne pourra pas prendre l'ascendant sur ce que fait Ethereum aujourd'hui, parce que Ethereum, c'est une blockchain qui est là pour héberger, pour développer des applications. Bitcoin, c'est vraiment une crypto-monnaie qui est avec l'usage, etc. Le nombre de Bitcoin en circulation étant fini, ce qui n'est pas le cas sur Ethereum d'ailleurs, fait que, ça, là je répète ce que disent beaucoup de personnes, je pense que la probabilité que Bitcoin reste, devienne une réserve de valeur et que Ethereum soit beaucoup plus utilisé pour des cas... pour des usages au quotidien, reste, à mon avis, là, ce qui est le plus probable, même si on peut aussi utiliser des bitcoins très simplement, parce que, contrairement à l'or qui est difficile à transporter, etc., etc., bitcoin, c'est très simple.
Mmh. Pour le coup, je rejoins totalement cette analyse-là. Après, il faut quand même garder en tête que tout peut se modifier. Hein. Si d'un coup, tout le monde veut faire une mise à jour de bitcoin, dynamisant son réseau et le rendant plus, on va dire, opérable, un peu comme Ether, comme le réseau Ethereum, ce serait faisable. Donc, on ne peut malheureusement pas insulter l'avenir. Puis quand on voit en 5 ans les évolutions technologiques dont l'humanité peut faire preuve sur ses applications et à quel point tout va plus vite aujourd'hui, on sait que tout peut changer. C'est la seule certitude qu'on a. Par contre, c'est vrai que Bitcoin semble avoir s'être ancré dans cette valeur où il veut être une réserve. Il ne veut plus bouger ses fondamentaux, en fait. C'est comme un livre où même si on trouve une faute d'orthographe, tant qu'elle n'est pas létale pour ce livre, eh bien, on va l'accepter dans ce livre et dans sa façon de fonctionner. Donc, je pense que Bitcoin a de grandes chances de se tourner de plus en plus vers cette valeur refuge qui va être un petit peu l'or des crypto-monnaies. En tout cas, c'est comme
exactement.
Ça. Que
ouais, tout à fait. Après, dans ce qui est possible aussi, c'est qu'aujourd'hui, on a en fait, tout à l'heure, Owen l'a évoqué assez rapidement, on a en fait des possibilités d'avoir des ponts entre les blockchains. C'est-à-dire qu'on peut aujourd'hui matérialiser le nombre de Bitcoin que quelqu'un a sur Ethereum via un token. D'accord. On peut imaginer qu'à un moment donné, les communautés décident que, puisque Bitcoin, finalement, il n'y a plus de nouveaux Bitcoin créés, etc., eh bien, on va faire une sorte de migration du nombre de Bitcoin que chaque détenteur de Bitcoin a sur la blockchain Bitcoin en Ethereum. Et ça, on peut le faire aussi sans passer par un tiers de confiance qui va garantir que ça matche. Il faut que les transactions soient signées par la personne qui a les deux adresses et ça fonctionne. Donc il y a énormément de possibilités, d'évolution en fait de ces écosystèmes-là. Et aussi qu'une troisième blockchain vienne complémentaire, qui fasse des choses complémentaires, voit le jour et se développe dans des proportions importantes.
Oui, d'accord. Bon, donc on est vraiment... tout est possible, effectivement. Pour rappeler un petit peu aux auditeurs, Bitcoin était là, c'était la première. La deuxième grosse, c'était Ethereum, qui avait comme but, vous me direz si je me trompe, mais qui avait comme but de moderniser, enfin d'offrir plus de possibilités effectivement à la blockchain, d'utiliser la blockchain pour faire plein d'autres choses, comme par exemple des applications, et à moins l'emphase sur la crypto-monnaie elle-même, même si elle est possible aussi. D'ailleurs, ça sera un épisode entièrement séparé, je pense, mais il faudra que quelqu'un m'explique un jour comment on peut faire des applications dans une blockchain, parce qu'une blockchain étant un ledger, je perds mes mots en français.
Un registre,
voilà. Un registre d'opérations. Je ne suis pas sûr de comprendre comment on peut faire des applications dans un registre d'opérations, mais peut-être. Mais, enfin oui, c'est même pas peut-être, c'est certain. C'est juste que ça, c'est un des sujets que je ne maîtrise pas bien. Mais au-delà de ça, du coup, il y a plein de questions qui se posent sur la blockchain en général et sur Bitcoin en particulier, parce qu'on est un petit peu, moi l'image que j'ai, c'est qu'on est un petit peu dans la machine à gaz de la crypto-monnaie et de la blockchain avec Bitcoin, un petit peu moins sur Ethereum qui essayait de corriger les problèmes structurels de Bitcoin, mais dans le Bitcoin spécifiquement, on a des questions de volatilité d'une part qui ne sont pas liées à son infrastructure, mais aussi de coûts du minage, de coût des transactions qui fait partie du système, du temps que prennent les transactions, qui est lié du coup à la volatilité. Il y a toutes ces questions. On parle beaucoup du coût en électricité, qui est quand même pas hyper compatible avec une vision plus verte de l'avenir. Toutes ces questions-là qui jettent un voile de doute sur le Bitcoin spécifiquement et la blockchain et la crypto-monnaie en général. Je ne sais pas si on peut évoquer chacun des points spécifiquement ou la question dans son ensemble, mais la question de... Parlons d'abord volatilité, et puis ensuite les questions de coût. La volatilité, c'est quand même un problème si on veut avoir une monnaie qui est utilisable concrètement. Moi, si j'ai 100 euros dans mon compte en banque, je sais que c'est 100 euros. Je n'ai pas la crainte que dans 2 jours ou dans 10 jours, ces 100 euros en soient 80 et dans 2 jours de plus, 150. C'est un problème, ça, quand même, pour un système de paiement.
Il y a déjà une bonne réponse de l'écosystème qui sont les stablecoins.
Exactement.
Stable, on va plutôt dire stable enough, parce que ça va s'adosser à une autre valeur comme l'euro, comme le dollar, qui mine de rien ne sont pas stables, moins volatiles que le Bitcoin, et suffisamment stable pour l'écosystème crypto, parce que c'est vrai que on peut pas dire que les monnaies fiduciaires, l'or ou les métaux précieux soient des valeurs stables. Par contre, quand on compare au Bitcoin, c'est un long fleuve tranquille. Mmh. Et il existe déjà du coup des crypto-monnaies qui sont adossées soit à une valeur plus stable, donc de l'euro, du dollar, des métaux précieux, soit même des bundles, c'est-à-dire des mélanges, des moyennes, et du coup, on va s'adosser à plusieurs monnaies pour en plus limiter le risque systémique qui fait que si le dollar baisse, ben, l'euro, lui, va peut-être monter. Et donc, notre jeu sera encore plus stable. Et à ce moment-là, ben, on peut très bien baser ce stablecoin sur une blockchain. La plupart sont basées sur Ether, mais il y a également, le Tether, qui est basé également sur le réseau Bitcoin. Il y a des stablecoins plus ou moins décentralisés, parce que quand on émet un jeton qui vaut $1, eh bien, il faut qu'il y ait $1 de valeur garantie quelque part. Sur le réseau Tether, c'est à Tether de faire cette garantie. Pour un stablecoin émis, ils doivent théoriquement s'engager à avoir $1 en banque. Mais il y a le DAI, par exemple, qui, elle, est une monnaie qui dit juste, à chaque fois qu'il y a un DAI en circulation qui vaut $1, moi, je vous donne la preuve technique et factuelle qu'il y a X dollars, donc une valeur supérieure, d'Ether, par exemple, bloqué sur la blockchain. Donc, chaque système va avoir une garantie différente, plus ou moins décentralisée, mais qui offre du coup une crypto-monnaie plus stable et qui permet d'avoir des nuits un peu plus tranquilles.
Ouais.
La question de la volatilité n'est pas du tout liée à la technologie, là, pour le coup. On se rappelle de l'affaire GameStop où en fait on a vu aussi beaucoup de volatilité sur une action en particulier qui avait rien à voir avec la blockchain. Ouais. C'est juste bien lié sûr au fait que c'est une nouvelle technologie, c'est de la valeur déjà, c'est une nouvelle sorte de valeur réelle et donc qui attire les investisseurs, les spéculateurs, etc. Ce qui est intéressant par rapport à la volatilité et à la blockchain, la volatilité c'est toujours entre deux. Enfin, en réalité, on peut pas parler de volatilité de Bitcoin. Il faut parler de volatilité de Bitcoin par rapport à et par rapport notamment, et c'est sous-entendu, aux monnaies fiduciaires que sont l'euro et le dollar.
Oui.
Et ce qui est intéressant, c'est juste...
Vas-y, dis Fabrice.
Le blockchain permet de garantir une volatilité faible entre des valeurs de façon décentralisée, sans qu'il y ait un tiers de confiance qui s'assure qu'on ait les choses. Et il y a des mécanismes, et là on n'a pas parlé de DeFi, de finance décentralisée, qui permettent de façon complètement décentralisée de garantir une volatilité très faible entre deux valeurs différentes. Et ça c'est complètement nouveau et c'est super intéressant.
Alors, je comprends tout à fait ce que vous dites. Sur les stablecoins, effectivement, on est d'ailleurs sur ce système pour la crypto-monnaie de Facebook, le Libra qui ne s'appelle plus Libra, qu'on évoquait dans le dernier épisode où tu étais présent, Fabrice. Mais quand tu me dis, Fabrice, oui, c'est pas du tout la technologie, tout peut être instable. Bien sûr, techniquement, c'est vrai. Mais dans la pratique, quand on parle d'utiliser un Bitcoin comme une monnaie, eh bien, il y a quand même une volatilité pratique qu'on constate aujourd'hui,
non, c'est clair.
Qui rend cette utilisation difficile. Donc,
complètement d'accord. Là, ce que je disais juste... que cette volatilité-là, elle n'est pas liée à la technologie. Elle est vraie, c'est un problème, mais elle n'est pas liée à la technologie. Elle D'accord. est liée au fait que c'est une valeur qui monte, qui attire des spéculateurs. Et donc, pour que les spéculateurs puissent gagner ou perdre de l'argent, il faut qu'il y ait de la volatilité.
D'accord.
Et pour nuancer un tout petit peu, c'est un problème, je le pense aussi. Par contre, mine de rien, c'est un cycle naturel qui développe tout écosystème. C'est-à-dire qu'il y a eu la bulle d'Internet au départ. Quand les gens ont compris l'ampleur de la technologie et du protocole TCP/IP d'Internet, du jour au lendemain, les gens ont investi énormément et ça s'est réeffondré. Mine de rien, c'est cette volatilité qui a fait parler les médias. C'est cette explosion du prix et cet effondrement qui font que beaucoup de gens s'y sont intéressés et ont fini par découvrir et finalement construire l'Internet que nous avons entre les mains aujourd'hui. Donc mine de rien, même si c'est un problème d'usage, et j'en conviens tout à fait, je rejoins parfaitement Fabrice sur ce point, en attendant, ce sont ces cycles qui font parler les médias, qui font que des gens s'intéressent au Bitcoin la plupart du temps pour ça, pour le côté spéculatif au départ, et qu'on finit par tomber sur des gens qui n'endorment plus la nuit, qui construisent des outils et qui sont en train de bâtir les usages blockchain qu'on aura dans la poche demain. Il faut quand même remettre un petit peu de lumière là-dessus, je pense. Et même si c'est vrai qu'on on voit le côté malsain, parce qu'il est très présent, puis il y a des gens qui viennent, ils n'en ont rien à cirer de ce qu'il y a derrière, ils veulent prendre un chèque, c'est vrai. Mais mine de rien, c'est ce cycle qui, petit à petit, est en train de bâtir tout ce qu'on a entre les mains. Quoi.
D'accord. Pour les autres questions un petit peu controversées, tout ce qui est consommation électrique, c'est vrai qu'on a des rapports, alors certains disent oui, c'est les banques traditionnelles qui font de la anti-hype pour nuire aux crypto-monnaies peut-être, mais on est d'accord qu'il y a dans le système une nécessité d'opérations informatiques, d'opérations mathématiques pour, alors, la découverte des monnaies, le minage des monnaies, c'est une chose, mais surtout pour la validation des transactions, qui fait qu'il y a une consommation électrique qui n'est pas négligeable, qui est, d'après certaines études, bien supérieure à celle qui est nécessaire pour les opérations des banques sur des monnaies normales, sur des monnaies fiduciaires, on va dire. Est-ce que c'est le cas vraiment ? Qu'est-ce que vous en pensez, vous, en tant qu'enthousiaste des crypto-monnaies ?
En fait, ce qui prend de l'énergie dans les systèmes Bitcoin et Ethereum aujourd'hui, c'est que le minage, c'est que la création de la preuve, on va dire. La validation ne prend pas, justement, en fait, c'est une des caractéristiques. Pourquoi ça fonctionne ? Parce que c'est... La preuve est très difficile à générer et prend beaucoup d'électricité, etc. Mais par contre, elle est très facile à vérifier. Et tous les nœuds peuvent vérifier toutes les preuves de chaque bloc. C'est par bloc, en fait, qu'on va créer cette preuve-là. Et seulement un nœud va créer une bloc. C'est ce nœud qui va avoir la récompense, la fameuse récompense de minage, et ces fameux nouveaux bitcoins. Donc, en fait, une des caractéristiques, c'est qu'on a une preuve qui est très difficile à générer, mais très facile à vérifier. Donc, c'est
quand tu dis preuve, on parle de la preuve de transaction ?
La preuve de création du bloc. En fait, bon, je vais essayer d'être le plus simple possible. Donc la blockchain, c'est une chaîne de blocs. À chaque nouveau, tous les 10 minutes sur Bitcoin, un nouveau bloc est créé. Ce nouveau bloc-là, celui qui crée ce bloc-là, a la récompense de minage qui est de 6,25-75 Bitcoin, je ne sais plus en ce moment, qui gagne parce qu'il a créé ce bloc-là. Et ça, c'est une seule adresse qui peut gagner ça, alors que dans le monde, en fait, on en a des milliers qui essayent à ce moment-là. Il faut, pour pouvoir faire en sorte que cet élu-là soit trouvé, ben, il faut que lui puisse générer cette preuve-là. Et c'est, quand j'ai dit la preuve, c'est la preuve de création du nouveau bloc. Et une fois que quelqu'un a dit « Ah, j'ai réussi à créer un nouveau bloc », alors je pourrais expliquer comment c'est généré. Mais en gros, c'est du hashing, en fait, c'est assez simple. C'est tirer des nombres au hasard, et c'est là où c'est un peu bête. C'est qu'en fait, on va utiliser l'électricité pour tirer au hasard des millions et des millions de nombres à la seconde jusqu'à ce que le bon nombre soit trouvé, qui permette de dire « Ah, je l'ai trouvé, maintenant c'est moi qui ai créé le bloc, et c'est le premier qui va le créer, qui va gagner ». Parce qu'en même temps, en réalité, il y en a plusieurs qui vont trouver, mais il n'y en a qu'un qui va être élu et qui va rester, qui va faire grandir la chaîne, on va dire, pour continuer. Et c'est cette génération de preuves qui prend beaucoup d'énergie quand on est en ce qu'on appelle preuve de travail et qu'on va faire du hashing, des milliards de hashing à la seconde, ou en tout cas sur 10 minutes, pour trouver ce bon nombre-là. C'est ça qui est problématique, c'est qu'on utilise de l'électricité pour des choses qui sont complètement...
Mais du coup, quand moi je vais à mon Lidl et que je veux payer ma course, paye en Bitcoin, il y a une transaction qui est effectuée, cette transaction doit être inscrite dans la blockchain, et ça nécessite des opérations...
La génération de la transaction, même la validation que la transaction-là elle est correcte, ça ne prend rien du tout comme énergie. Ce qui prend de l'énergie, c'est effectivement l'insertion dans la blockchain. Et c'est la création du bloc dans laquelle va être insérée cette transaction-là.
Bon, d'accord, tu coupes les cheveux en quatre, Fabrice. Il est quand même nécessaire de créer un nouveau bloc pour valider cette transaction. Oui. Donc, mécaniquement, la validation d'une transaction nécessite la création d'un bloc et donc cette consommation d'énergie.
Directement. Mais c'est garantir la sécurité de ce réseau. C'est ce qui fait que ce réseau est énorme et consomme de l'énergie, qu'il est sécurisé. Après, pour quand même dézoomer, il y a quand même un autre angle sur la consommation du Bitcoin. Déjà, 95% des nouveaux projets se basent sur des protocoles qui consomment 1000 à 10 000 fois moins d'électricité. Déjà, il faut le savoir. Donc, là où la réserve de valeur Bitcoin risque de consommer encore un peu d'électricité pendant quelques années, la plupart des autres projets sont sur des protocoles ou consensus, je ne sais pas, Fabrice, quel serait le mot le plus adapté, mais qui consomment beaucoup moins pour la validation et la sécurisation des blocs.
Tout à fait.
Par contre, il faut quand même avoir en tête que pour des raisons non pas de bienveillance humaine, mais de profitabilité et d'optimisation économique, plus de 76% de l'énergie consommée par le réseau de validation Bitcoin, c'est de l'énergie verte. Simplement parce que c'est l'énergie verte dont personne n'a envie, dont personne n'est prêt à aller faire l'effort d'aller le chercher, notamment des sources géothermiques en Islande. À part un mineur de crypto-monnaie qui veut optimiser ses gains, personne ne va aller là-haut pour payer moins cher son électricité. Tout comme la surexploitation des barrages hydroélectriques, parce que un barrage hydroélectrique, quand il a une capacité de produire 10 en hiver, mais que les citoyens consomment 5, l'être humain est tellement mauvais avec le stockage d'électricité que le barrage il tourne à 50% de ses capacités. Pourquoi pas le faire tourner à fond ? C'est de l'énergie renouvelable qui, en plus, permettrait de sécuriser les transactions. Et pour finir, l'avantage et l'inconvénient en même temps, pour beaucoup, c'est qu'un mineur de crypto-monnaie qui consomme 1 kW de chaleur va fournir exactement la même chaleur qu'un chauffage qui consomme 1 kW de chaleur. Donc l'être humain sait déjà brûler de l'électricité pour générer de la chaleur. La particularité, c'est que grâce au Bitcoin, on pourrait toujours générer cette chaleur en utilisant de l'électricité, mais en faisant travailler un processeur. Et donc on a, même si 75% du réseau est déjà basé sur de l'énergie verte, on pourrait même récupérer cette chaleur, qu'elle soit verte ou non, et l'utiliser, en faire un usage plus éco-responsable.
Ce que tu veux dire, c'est par exemple, très clairement, fabriquer des chauffages qui auraient des processeurs qui, dans une partie, tu me dis si je fantasme.
Hein, c'est totalement vrai, ça existe déjà. Il y a des entreprises qui le font pour chauffer de l'eau, des entreprises qui le font pour chauffer des piscines, des entreprises qui le font pour du chauffage à air. On a essayé de le faire à un moment chez Just Mining. Après, on s'est rendu compte qu'il y avait quand même deux métiers. Il y a le métier d'être rentable en sécurisant le Bitcoin, et il y a le métier de se dire, bon, ok, je consomme déjà de l'électricité pour me chauffer, est-ce que je pourrais rembourser 60% de ma facture sans vouloir être rentable ? J'ai quand même le chauffage, mine de rien. Est-ce que je pourrais rembourser une partie de ma facture comme ça ? C'est le cas, par exemple, de Wise Element, qui est une société française, si je ne dis pas de bêtises, et qui propose de chauffer son eau. En fait, on a comme un ballon à eau pour chauffer son eau, quoi. Sauf qu'on vient y mettre une carte ou un processeur de minage Bitcoin qui va chauffer l'eau 24-24, 7 jours sur 7, parce que c'est l'une des dépenses que les gens ont pour chauffer de l'eau. Et ça permet du coup d'optimiser cette consommation. Le truc qui est gênant, c'est pas le fait que ça consomme. Et en réalité, quand on regarde le service rendu par le réseau Bitcoin, proportionnellement à ce qu'il consomme, si on s'amuse à faire des parallèles avec le système financier actuel, pour le service rendu combien ça consomme, on se rend compte que le Bitcoin n'est pas du tout une aberration. En tout cas, pas plus que ce qui existe déjà. Déjà, c'est basé sur l'électricité. On aurait pu avoir un bon moteur au pétrole, hein, rappelons-le. Mais non, oui, bon. C'est qui à 75% est verte, qui a plein de façons d'optimiser. On a trouvé des moyens de faire passer 1000 fois plus de transactions sans consommer plus, parce qu'encore une fois, comme l'a dit Patrice, c'est vraiment... Fabrice, pardon, j'ai du mal entre Patrice et
Fabrice, c'est compliqué.
J'ai failli lâcher un Fabien. Non, mais du coup, ce qui fait que c'est vraiment garantir la sécurité de ce réseau qui coûte. Et ce qui est un petit peu dommage, c'est que c'est vrai qu'on va faire un calcul. En fait, c'est le calcul qui est réalisé qui gêne les gens. Parce que pour le coup, qu'il y ait deux fois plus de mineurs demain, ça ne veut pas dire qu'il y aura deux fois plus de transactions. Et pourtant, ça veut bien dire qu'il y aura deux fois plus de consommation. C'est pour ça que c'est, mine de rien, un problème optimisable et que nous devons optimiser. Que ce soit très impactant ou que ce soit une aberration écologique, comme certains qui ne comprennent pas le sujet le disent, il y a, quoi qu'il arrive, quelque chose à optimiser qui est important à avoir en tête pour notre planète, et je pense qu'il faut travailler là-dessus. Mais quand on dézoome, ça n'a rien d'aberrant par rapport à ce qui existe déjà. C'est une énergie qui, principalement, est maîtrisée pour des raisons économiques et qui est éco-responsable. Et en plus de ça, je pense qu'on peut le dire, il y a énormément de façons d'optimiser cette consommation.
Donc peut-être qu'aujourd'hui, ça reste un problème, mais que si on regarde à 5, 10, 15, 20 ans, si cette infrastructure s'intègre à la société, on aura des moyens de gérer les choses différemment.
En fait, aujourd'hui, les nouvelles versions des blockchains, en novembre l'année dernière, il y a eu Ethereum 2.0 qui est entré en production, c'est-à-dire la nouvelle version sur laquelle progressivement les crypto-monnaies, les programmes vont passer, qui n'est plus du tout, en fait, qui fonctionne plus du tout avec ce type de consensus. Où là, en fait, il n'y aura plus de consommation d'électricité importante pour valider les transactions.
Oui, je comprends que sur les crypto-monnaies et les blockchains à venir ou existantes aujourd'hui, ça peut être mitigé, mais le Bitcoin reste, comme tu le disais tout à l'heure, Owen, reste le système antédiluvien qui est un petit peu une machine à gaz, quoi. Du coup, j'ai une autre question sur ces systèmes antédiluviens. La blockchain Bitcoin, aujourd'hui, elle fait, si mes informations sont bonnes, une centaine de gigas, je crois. Donc, comme on le disait, on a toutes les informations depuis la toute première opération à la création de la blockchain. J'imagine que les blockchains suivantes, et notamment Ethereum, ont des moyens de gérer ces choses différemment. Mais la blockchain Bitcoin, elle va continuer à grossir. Est-ce qu'on est condamné à avoir... 100 gigas, on peut avoir ça sur un disque dur, hein, c'est pas la fin du monde, mais c'est quand même un gros volume de données. Est-ce que ça va continuer à grossir ou est-ce qu'il y a des moyens de, là encore, mitiger cette problématique ?
Simplement les deux, hein. Ça va continuer à grossir, oui, mais on a des moyens de maîtriser la taille de ce registre et surtout le nombre de personnes qui l'ont. Pour que le réseau Bitcoin fonctionne, tout le monde n'a pas besoin d'avoir les 334,45 gigas à l'heure actuelle, sachant qu'on était à 260 l'année dernière, donc ça va vite et c'est exponentiel. Tout le monde n'a pas besoin d'avoir ça. J'utilise Bitcoin tous les jours, j'ai un validateur, j'ai un serveur qui a téléchargé l'intégralité de la blockchain, et moi je le fournis par exemple à des contacts, à des collègues, à plein de gens qui utilisent. On a besoin d'un certain nombre de nœuds sur le réseau qui détiennent toute la blockchain Bitcoin, mais tout le monde n'est pas obligé d'avoir 100% du registre dans sa poche.
Ça me fait penser à l'époque du P2P et des c'était pas Napster, mais d'autres avaient des réseaux. Il y avait des réseaux, il y avait des super nœuds qui avaient plus d'informations et plus d'opérations, etc. C'était... Bon, ça fonctionne un petit peu de la même manière. Deux questions qui me reste, le temps de transaction, d'une part, qu'on n'a pas encore évoqué, est-ce que le temps de transaction est un problème puisque, d'après mes informations, vous me contredirez peut-être, il faut un certain temps pour que la transaction soit validée. Au-delà de la question de la volatilité qui peut poser problème dans ce contexte, on doit du coup payer un petit peu plus cher si on veut avoir une transaction validée plus vite. Est-ce que c'est un problème, ça, pour une utilisation au quotidien, ou est-ce que, justement, d'autres réseaux font ça différemment, mais c'est quand même comme ça dans le réseau Bitcoin et donc on ne peut pas le changer? Temps de transaction, est-ce que c'est problématique?
Alors, oui, c'est problématique. En tout cas, c'est limitant pour un certain nombre d'utilisations au quotidien. Et après, là, pour le coup, c'est plus dépendant des typologies de blockchain. Sur Bitcoin, par exemple, c'est dans le protocole qu'une transaction doit prendre en moyenne 10 minutes. Quel que soit le nombre de mineurs. Donc, c'est-à-dire la toute première transaction avec un mineur unique, c'est tellement simple de trouver qu'en fait, elle a pu se faire quasiment immédiatement. Et plus il y a de mineurs, plus en fait, le temps pour créer un nouveau bloc va baisser. Et en fait, ce qu'il faut savoir sur Bitcoin, il y a un recalcul automatique de la difficulté en fonction du nombre de mineurs. Donc, si le nombre de mineurs baisse, la difficulté va baisser. Et si le nombre de mineurs augmente, la difficulté va augmenter pour qu'en moyenne, il y en ait un qui trouve tous les 10 minutes les nouvelles transactions. Donc sur Bitcoin, c'est écrit dans le protocole, ça fait partie du protocole. Et ensuite, sur Ethereum ou d'autres, ça dépend en fait du temps pour créer un nouveau bloc, puisque c'est dans les blocs que les transactions sont intégrées. Donc ça dépend du temps de création d'un bloc, qui est un des paramètres. Et l'autre, c'est comme un bloc a un nombre fini de transactions, et bien quand il y a beaucoup, beaucoup de transactions, tous ne peuvent pas être inscrites dans le prochain bloc, et c'est là où les frais ou les coûts, en fait, en fonction des frais qu'on va accepter de payer, vont augmenter ou pas le temps de validation de la transaction. Donc il y a un temps précis qui est...
C'est un gros problème, ça. Si on se met tous à utiliser des bitcoins et qu'on se met à avoir des millions de transactions par minute, si on a un nombre limité de transactions dans un bloc de la blockchain bitcoin, ça va devenir ingérable, non ? Comment on gère
Alors,
ça
Il y a déjà des surcouches, donc des logiciels qui permettent d'eux. Je donne un exemple très simple. Le Lightning Network, pour faire super simple, il limite des transactions inutiles. En gros, vous allez dans un bar avec 10 euros, vous prenez une bière à 2 euros, il y a une transaction, enfin deux en réalité. Vous donnez les 10 euros, on vous rend votre bière et 8 euros. Vous reprenez une deuxième bière, vous redonnez 8 euros, troisième transaction, on vous rend 6 euros. Bref, à la fin de la soirée, vous avez fait 17 transactions, alors que vous auriez pu ouvrir une ardoise, écrire toutes les dépenses, tous les inputs, tous les outputs, qu'est-ce que vous allez dépenser, qu'est-ce qu'on va vous rendre, et vice-versa. Et à la fin de la soirée, donnez vos 10 euros et on ne vous rend rien. Transaction unique, réglant tout l'historique. Donc en réalité, quand ce ne sont pas des solutions directes et techniques que l'on peut apporter au protocole, et c'est aussi possible, hein, si ça devient un problème, on peut voter pour qu'il y ait un fork, que tout le monde utilise la nouvelle chaîne et qu'on mette plus de transactions dans le bloc, par exemple. Mais ce ne serait même pas une question de volonté, je pense, parce que les gens ne souhaitent pas. Je pense que Bitcoin n'a pas pour intérêt de changer ces règles de base qui ont été un petit peu le cœur même et le noyau des valeurs que Bitcoin a apportées. Si ça devient réellement très problématique dans tous les usages, ce sera une question et ça l'a déjà été à certains moments. Mais en général, le Bitcoin n'est pas là pour ça. En tout cas, c'est le sentiment que j'en ai. Je rappelle que personne n'a donné la vérité absolue sur l'utilité de Bitcoin dans ce monde, hein, rappelons-le.
Oui. Ça pourrait tout à fait devenir une valeur entièrement refuge qui ne sert pas du tout aux transactions quotidiennes et on pourrait utiliser d'autres crypto-monnaies pour ça, des stablecoins ou le Libra avec son nouveau nom.
Il y a des surcouches logicielles qui permettent de faire beaucoup plus de transactions sans presque aucun frais et qui permettent de on va dire, moins s'exposer à cette durée. Le Lightning Network, Segwit, plein de choses, plein de surcouches techniques qui sont venus faciliter et qui permettent même sur le moteur actuel Bitcoin de régler ces problématiques.
Alors, dernière question, et puis après je vous libère, je vous promets. L'essentiel de l'avantage ou de la différence entre un réseau de crypto-monnaies décentralisées et les monnaies fiduciaires, c'est qu'il n'y a pas spécifiquement de point central de contrôle. L'Internet, c'est la décentralisation de l'information et Dieu sait que ça a amené énormément de bonnes choses et que j'en suis extrêmement heureux. mais ça a aussi amené des choses un petit peu moins reluisantes, comme le chaos dans l'information, c'est-à-dire les fake news, l'impossibilité de faire confiance à quelqu'un, le fait qu'on entend toutes les idées de tout le monde, y compris les pires, etc., etc. Alors, on ne va pas débattre de ça aujourd'hui, on en parle quasiment à tous les épisodes dans le Rendez-vous Tech, mais la décentralisation d'une monnaie, ça peut laisser imaginer des effets négatifs également, le fait qu'on ne puisse pas contrôler l'économie, c'est pas une question d'économie, mais le fait qu'on puisse pas, parce qu'en fait, bon, on peut pas forcément contrôler l'économie, mais on a des leviers, on a des moyens d'influencer certaines choses quand ça part en cacahuète, j'ai failli dire un autre mot en C. Sur le Bitcoin, on a beaucoup moins de contrôle, même si on n'a pas zéro contrôle, ou dans un réseau décentralisé en général. Est-ce que on ne devrait pas apprendre notre leçon des côtés un peu plus sombres de l'Internet et se dire bah, y a des choses, des garde-fous à mettre en place où il faut penser à ça avant de se lancer, cet aspect décentralisé. Oui, c'est le cas.
C'est le cas, c'est juste qu'aujourd'hui, dans Bitcoin, ce n'est pas une personne, une petite entité, un petit groupe qui est dans une position et que les autres ne peuvent pas remettre en question qui vont prendre les décisions. Le truc, c'est que là, aujourd'hui, une banque centrale peut faire ce qu'elle veut. Alors évidemment, elle est tenue par des règles, règles qui se sont eux-mêmes imposées et que la politique a définies. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est un petit groupe qui peut prendre des décisions qui vont impacter la majeure partie des utilisateurs de cette monnaie. Alors que dans le Bitcoin, déjà, on peut prendre les décisions qu'on veut à partir du moment où il y a une majorité qui l'accepte. Ce qui rend le truc un peu plus démocratique. En fait, voilà, ce que je veux dire, c'est quoi qu'il arrive, il y aura toujours des abus, même dans la blockchain. Parce que mine de rien, il y a des gens qui l'utilisent, des êtres humains faillibles. Nous ne sommes que des hommes et il y aura des abus, il y aura des prises de pouvoir hostiles, il y aura des gens qui vont contrôler et essayer de contrôler ce système ou une partie de sa gouvernance, blockchain ou non blockchain, peu importe. C'est un modèle qui existe depuis la nuit des temps et qui existera toujours. Le truc qui est intéressant avec la blockchain, c'est que le réacteur même, je ne parle pas de qui conduit la voiture, mais je parle de celui qui contrôle le moteur, eh bien, c'est toutes les personnes qui sont autour. Donc évidemment, on a des gens qui vont en faire un usage et qui vont pouvoir abuser. Tout comme quand il y aura des problèmes, on aura des leviers et tous ensemble, on pourra trouver des solutions. C'est déjà arrivé sur Bitcoin. Hein. Mais en attendant, le noyau même, le réacteur de tout cet écosystème, lui, restera contrôlé par une majorité transparente. Et c'est ça qui change un peu la donne. Quoi qu'il arrive, on ne refait pas le monde, il y aura des abus tant qu'il y aura des hommes, on le sait bien, mais des abus qui n'auront peut-être pas la même nature et peut-être pas la même dangerosité, parce que personne ne peut s'emparer de l'écosystème global.
Mais tu sais, c'est une idée. Alors là, on parle dans des questions plus philosophiques, mais si on compare, par exemple, et je vais parler de sujets que je connais, si on compare un réseau social décentralisé où il n'y a justement pas vraiment de contrôle comme Mastodon, qui peut générer des choses comme Gab ou Parler ou ce genre de réseau, ce type de réseau où on ne contrôle pas ce qui se passe parce qu'on est pour la liberté d'expression, entre guillemets, c'est des réseaux qui sont utilisés. En fait, sans contrôle, on vire, on a l'impression, vers les côtés les plus sombres. Et un réseau, alors Dieu sait qu'un truc comme Twitter ou Facebook, ce n'est pas non plus idéal, mais au moins, on a la possibilité d'aller supprimer ce qui ne nous plaît pas, même si c'est plus difficile à faire. Et peut-être que le parallèle n'a pas lieu d'être, peut-être que c'est une comparaison où je fais une...
Je pense totalement que c'est une super comparaison. Mais pour moi, c'est le problème de l'anonymat. Il y a une majorité des gens qui veulent être anonymes pour conserver leur vie privée, et je trouve ça très sain. Mais on sait que sur un anonymat parfait, les 4 ou 5% de personnes qui veulent vraiment rester anonymes, ce n'est pas pour cacher la marque de yaourt qu'ils mangent. Ça gêne personne. C'est les personnes qui veulent vraiment et qui ont besoin d'une anonymat et qui, pour eux, c'est quelque chose de totalement essentiel. Ce sont très souvent des gens qui ont des choses graves à cacher. C'est ça le problème, en fait. C'est un juste milieu. Et c'est pour ça que la vie n'est pas binaire, que c'est jamais 0 ou 1. C'est pour ça que je pense que tout ce qu'on est en train de vivre, c'est toujours une question de curseur. Quand on donne une transparence totale et qu'on voit que les gouvernements et les banques peuvent abuser, comme en 2008, on se dit « Waouh, je fais vraiment confiance à un système où on peut abuser de moi et où j'ai même pas le droit de remettre en question la personne qui a abusé de moi. » Et à l'inverse de ça, je veux un système d'anonymat complet où on ne peut même pas savoir quelle bêtise je fais,
Ben c'est bien beau, il est bien beau ton idéal. Sauf que dans cette utopie, ben il y a quelques personnes qui seront intraçables, qui seront impossibles à retrouver et qui vont faire des horreurs aussi graves que ce qu'aurait pu faire un système centralisé. Mmh. Et c'est là qu'on se rend compte qu'il n'y a pas de réponse unique. Malheureusement, on n'aura pas de réponse parfaite parce que le monde dans lequel on vit est imparfait. Et c'est également ce qui fait une partie de sa beauté. Mais il y aura des abus tant qu'on laisse un moyen de les faire. Et il y aura évidemment un moyen de faire des choses un petit peu plus justes, un petit peu plus transparentes, parce qu'il faudra trouver des justes milieux. Et c'est là tout le jeu de funambule d'essayer d'améliorer le système que l'on connaît déjà.
Mais il y a quand même un contrôle. Si on a un consensus dans le groupe qui gère la chose, on peut quand même, comme vous le disiez, modifier modifier le fonctionnement, changer la nature du système. Donc, c'est pas que c'est lancé dans le vide et que personne ne peut rien changer une fois que c'est généré.
Non, d'ailleurs, les nouvelles technologies, Polkadot par exemple, qui est une technologie qui monte pas mal maintenant, a dans son protocole les règles qui vont permettre de faire évoluer le protocole lui-même, par vote, par etc. Donc ça, c'est voilà. Et aussi, une dernière chose, on peut aussi centraliser sur une blockchain, sur la technologie. On peut aussi, en fait, décider qu'un organisme unique, une banque centrale, on parle souvent du CBDC, je ne sais pas comment on dit en français, mais de l'euro numérique, qui serait géré par une banque centrale, et ben là, en fait, quand la banque européenne travaille sur le sujet, elle n'imagine pas que ça va être quelque chose de complètement décentralisé, avec des règles décentralisées de création de nouveaux euros, etc. C'est elle qui va gérer directement l'euro numérique, le volume d'euros en circulation, etc. etc. Donc ça sera centralisé quand bien même ça utilisera blockchain.
Ouais. On est effectivement sur d'autres questions. J'ai l'impression au final que c'est vraiment Bitcoin qui pose le plus de problèmes en fait, parce que c'est le réseau le plus ancien, le réseau qui évolue le moins, et il faut bricoler pour l'amener à des résultats ou des standards plus acceptables, mais bon, bref.
Mais c'est une question de volonté, il faut bricoler parce qu'on ne veut pas toucher à ce noyau qui satisfait tout le monde. En fait, c'est comme si on avait trouvé un certain niveau d'équilibre, une certaine équité qui a fédéré tout le monde, et maintenant, même si on pourrait l'améliorer techniquement, on ne veut pas toucher à ce réacteur même, déjà parce qu'on peut subvenir à nos besoins en bricolant autour, et quand on peut réussir on peut réussir à modifier l'accessibilité et l'usage sans remettre en cause cet équilibre très 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 délicat qui a été trouvé. Mmh. Et c'est pour ça, mais ça pourrait être le cas. C'est juste que pour l'instant, et c'est une question de rentabilité, les gens qui connaissent Bitcoin et qui l'utilisent ne trouvent pas que c'est rentable d'un point de vue des valeurs d'aller bricoler le cœur même de Bitcoin, alors qu'on peut, en ajoutant des surcouches autour, conserver cet équilibre naturel qui a été trouvé. Et c'est assez impressionnant à observer, quoi.
Ma dernière question, qui décide, si on veut changer les protocoles de la blockchain Bitcoin, qui peut décider de le faire ? Est-ce que c'est tous les utilisateurs ou qui va le faire vraiment ?
Je ne sais pas si Fabrice a la réponse à ça. Il me semble que c'est principalement les mineurs, parce que mine de rien, c'est eux qui décident.
Donc il faut fédérer 50% des mineurs qui décident.
En fait, si on fait une nouvelle chaîne Bitcoin, qu'il y a des nouvelles règles et que tous les mineurs sécurisent la nouvelle, bah, ils nous ont fait changer de paradigme.
En fait, très simplement, changer les règles de Bitcoin, ça veut dire faire évoluer le programme de minage. Et le programme de minage, en fait, c'est les mineurs qui décident de passer à la nouvelle version. C'est pas sur Windows 10, mais c'est sur Bitcoin 2.0. Les mineurs qui vont décider de faire passer sur Bitcoin 2.0, eh ben, en fait, ils vont avoir la nouvelle version et les autres pas. Et si on a suffisamment, eh bien, on va pouvoir dire qu'on aura effectivement un Bitcoin 2.0 et on n'aura pas l'ancien. Et en sachant que si ça se passe comme ça s'est passé avec Bitcoin Cash, eh bien, il y aura probablement le Bitcoin historique qui va quand même rester et continuer à vivre sa vie, peut-être péricliter complètement au bout d'un certain temps, mais ça ne sera pas du jour au lendemain où il y aura zéro Bitcoin ancien et tout et complètement des nouveaux.
Et du coup, n'importe qui peut décider, comme c'est un logiciel open source, peut décider d'aller développer une version Bitcoin 2.0, et ensuite c'est au choix des mineurs, chacun, de l'installer ou non, cette version.
Oui, tout ça, oui.
En fait, c'est drôle, mais mine de rien, la plus grande force d'un utilisateur, c'est sa consommation. On utilise une chaîne Bitcoin, on détient des Bitcoins, ou alors on mine du Bitcoin. En faisant ça, on montre qu'on est intéressé et qu'on trust ce système Bitcoin. Tout comme, et là pour le coup on peut revenir au droit de base et rappeler à chacun qu'il a également, de par sa propre consommation dans la vie, un choix c'est que quand on va manger du Nutella tous les jours, on fait qu'il y a du Nutella en vente. C'est cette demande qui, mine de rien, montre un intérêt pour quelque chose. Et il faut rappeler à tout le monde que nos actes et nos décisions et nos usages donnent de la crédibilité aux marques, aux produits, aux outils que l'on consomme et que l'on utilise. Eh bien, c'est, mine de rien, différent de par sa nature, mais totalement la même chose de par la confiance qu'on donne au système. S'il y a un fork de Bitcoin, qu'on a Bitcoin A et Bitcoin B, on va soutenir et faire, enfin, on va pérenniser le système que l'on va continuer d'utiliser. C'est vraiment comme ça qu'on donne sa confiance, en fait, en utilisant un service plutôt qu'un autre.
Écoute, tu m'as donné faim avec tes histoires de Nutella, donc je vais aller déjeuner parce qu'il commence à être tard. Merci à tous les deux de nous avoir consacré un petit peu de temps pour nous expliquer tout ça. Je pense que c'est beaucoup, beaucoup plus clair pour beaucoup d'entre nous, en tout cas pour moi. Donc, je suis très reconnaissant. Avant de se quitter, est-ce que vous pourriez nous dire où on peut vous retrouver si on veut en savoir un petit peu plus ou avoir un petit peu plus de ce que vous proposez ? Fabrice, tu peux commencer ?
Oui, alors le plus simple, c'est sur Twitter, @fxzofcroiseau.
Super, Fabrice Croiseau. Le lien sera dans les notes de l'émission. Owen, où te retrouve-t-on ?
Alors, sur YouTube, principalement, sous le nom Asher, H-A-S-H-E-U-R, et sinon un petit peu partout, sur Facebook, Twitter, Instagram, Spotify, un peu partout, dès qu'on tape Owen et crypto, j'essaye de montrer le bout de mon nez.
Et sur Twitter, c'est @powerasher. Le lien sera aussi dans les notes de l'émission. Merci beaucoup à tous les deux. Pour ma part, c'est NotePatrick sur Twitter, Facebook, Instagram, un petit peu partout. Vous pouvez suivre tout ce que je fais et avoir les liens vers tout ce que je fais sur NotePatrick.com, que ce soit le Discord, le Twitch, le YouTube, etc., etc., pour parler un petit peu de jeux vidéo sur YouTube. Et puis, vous pouvez également soutenir l'émission. Sachez que cette émission est soutenue par les auditeurs. C'est un système de rémunération original et, enfin, un petit peu moins original aujourd'hui que quand je me suis lancé, mais quand même extrêmement positif. Vous pouvez aller sur patreon.com/rdvtech et décider de soutenir avec des vrais euros sonnants et trébuchants les épisodes que je produis. Vous décidez de la somme, vous décidez quand vous vous arrêtez et ça vous donne droit à des bonus super sympas que vous pourrez découvrir sur le site. C'est sur patreon.com/rdvtech. Alors si on vous a appris quelque chose, si vous avez passé un bon moment en nous écoutant, j'espère que vous considérerez l'idée de nous permettre de faire ce travail. Donc patreon.com/rdvtech.
Pourquoi il n'y a pas d'acceptation de Bitcoin ? C'est très simple aujourd'hui d'accepter le Bitcoin.
Écoute, il faudra aller chez Patreon pour leur demander quand ils accepteront les Bitcoins. C'est une bonne question. Ou alors peut-être que vous pourriez m'aider à mettre en place un système de rémunération par Bitcoin indépendant de Patreon. Il faudra qu'on regarde ça. J'y ai jamais pensé jusqu'à maintenant. Enfin si, j'y ai pensé, mais je ne l'ai jamais fait. C'est vrai qu'aujourd'hui, même PayPal accepte les Bitcoins. Donc il suffirait de mettre mon adresse PayPal. Hein, c'est très simple. Le fait est que j'avais essayé des systèmes de ce type indépendants d'un système fédéré comme Patreon et ça n'avait pas vraiment fonctionné avant, il y a très longtemps, quand je faisais des podcasts avant que ça ne soit mon métier. Mais peut-être qu'il faudrait.
J'en connais plein, en tout cas, suffit de me demander et puis je fais les bonnes mises en relation.
Écoute, on va discuter après la fin de l'épisode alors. Ça marche. Merci à vous tous et rendez-vous dans une semaine pour un nouvel épisode. A priori, parce qu'il n'est pas impossible que mon deuxième enfant soit né entre le moment où on enregistre et on publie et le moment du prochain épisode. Donc, on verra ce qui se passe. Mais le rendez-vous tech, en tout cas, sera là, même si possiblement, moi, je serai en congé paternité. Je vous fais de grosses bises à tous et à toutes.